RTS La Première présente Mystifica Science, un podcast de CQFD qui s'intéresse aux grandes impostures scientifiques, avec l'agente Leslie et Adrien Zerbini.
C'est peut-être l'imposture scientifique la plus terrifiante de l'histoire dont nous allons parler, la biologie prolétarienne de Lysenko. Pourquoi terrifiante ? Parce que pendant 25 ans, l'agronomie de l'URSS va suivre des théories folles, ce qui aboutira à de gigantesques famines et des milliers, voire des millions de morts. L'agente Leslie revient sur cette incroyable histoire.
Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que dans les années 30, en URSS, suite à la collectivisation forcée de l'agriculture à des conditions météorologiques difficiles, la famine était déjà présente. Et c'est à ce moment qu'apparaît Trofil Lysenko, comme une sorte d'homme providentiel.
Bon, ben alors pour commencer, qui est ce Trofil Lysenko?
C'est le fils d'un couple de paysans ukrainiens. Il naît juste avant le XXe siècle et il suit d'abord une formation de jardinier. Puis il devient assistant-chercheur dans une station de sélection végétale. Et enfin, en 1925, il travaille comme technicien agricole en Azerbaïdjan, notamment à l'amélioration des sols. Très vite, il va se passionner pour une technique qui, selon lui, est capable de tripler les rendements des blés. La technique de la vernalisation. L'idée est d'accélérer le cycle de croissance en provoquant une germination anticipée par humidification des graines. Puis, en hiver, la germination est bloquée par le froid et, enfin, au printemps, lorsque les graines sont plantées, la plante reprend son cycle en ayant déjà acquis de précieuses semaines de croissance.
Ok, donc ça c'est la vernalisation. Maintenant la question tout simple, c'est est-ce que ça marche ce truc?
Bonne question. Oui, ça peut marcher. Un peu. Mais ça ne double ou ne triple pas les rendements. Et puis surtout, c'est une technique qui a été décrite dès le milieu du 19e siècle par un agronome américain de l'Ohio, puis étudiée plus en détail par un botaniste allemand en 1918.
Ok, donc tout ça, c'est pas vraiment une découverte de Lysenko.
Absolument pas. Et d'ailleurs, lorsqu'en 1929, lors d'un congrès à Leningrad, il présente sa découverte, entre guillemets, pas mal de ses collègues s'amusent de tout ça. Mais Lysenko est un jeune technicien agricole issu du peuple. Il est habile et présente ses opposants comme les élites universitaires bourgeoises. La Pravda, rappelant que c'est l'unique source nationale d'information écrite de l'époque, s'empare de l'histoire. Lysenko annonce qu'il va tripler les rendements de blé et en faire pousser jusqu'en Sibérie. Une promesse que le camarade Staline accueille avec beaucoup de bonheur, puisque, rappelons-le, la famine sévit.
Bon, mais il va quand même falloir, j'imagine, faire démonstration de ses thèses, ses fameuses thèses sur la vernalisation.
Ah oui, il effectue un essai en plein champ dans la ferme de son père. Sur un demi-hectare, il plante du blé d'hiver qui a été vernalisé, et sur un autre demi-hectare, du blé de printemps. Et effectivement, le blé vernalisé est trois fois plus productif. Ce que des émissaires du ministère de l'Agriculture viendront eux-mêmes constater, juste avant les moissons.
Oui, mais enfin, c'est un peu curieux tout de même pour un technicien agricole qui travaille dans un centre de recherche de faire une démonstration un peu seul dans son coin et sur un demi-hectare.
Mais ça, c'est évident. Mais rappelez-vous qu'il n'y a rien de plus facile de faire croire l'impossible à ceux qui ont envie d'y croire. Or, en pleine famine, on a envie de croire à une révolution agronomique.
Bon, mais à un moment, le masque va tomber. Ces rendements miracles, ils ne vont pas pouvoir se produire à grande échelle.
Non, mais un autre miracle va se produire. En 1935, se tient à Moscou un congrès sur les fermes collectives auquel Staline lui-même assiste. Et là, les voix se lèvent pour dire que les promesses de Lysenko se font attendre. D'autres pour dire que la collectivisation de l'agriculture ne fonctionne pas. Et là, Lysenko va jouer un coup de poker magistral. Il monte à la tribune à pieds nus et explique que derrière les ennemis de la vernalisation se cachent en réalité les ennemis du communisme. Ce coup de bluff réussit au-delà de tous ses espoirs. Staline applaudit, Lysenko devient son protégé, la Pravda le surnommera dès lors le professeur aux pieds nus.
Bon, reste que, j'insiste, mais les rendements agricoles ne s'améliorent toujours pas.
Non, non et non, et des gens continuent de mourir de faim par milliers. Mais pendant ce temps, Lysenko accède à des postes de plus en plus prestigieux, jusqu'à devenir directeur de l'Institut de génétique de l'Académie des sciences russes, à la place du biologiste Vavilov.
Nikolaï Vavilov, hein, c'est le fameux fondateur de l'Institut Vavilov qui reste encore aujourd'hui l'une des principales banques de semences au monde.
Exactement. Un homme brillant. Et qui aura, en 1940, la mauvaise idée de dire qu'il est dommage de s'occuper des travaux de recherche des autres biologistes au monde entier. C'est-à-dire de tous les biologistes, sauf Lysenko.
Alors vous dites qu'il a eu la mauvaise idée de dire ça parce que...
Maintenant que Lysenko est aux commandes, cette idée est une suspicion de trahison. Vavilov est arrêté, emprisonné et mourra 3 ans plus tard dans sa cellule. On peut dire que l'URSS est entrée pleinement dans l'ère de la biologie prolétarienne. Ou encore biologie de classe, pour utiliser le terme inventé par Lysenko, en référence bien sûr à la lutte des classes.
Et alors, dans les grandes lignes, en quoi la biologie de classe se distingue-t-elle de, je sais pas, de notre biologie ?
Eh bien, vous savez sans doute que le père de la biologie moderne est Charles Darwin, avec sa théorie de l'évolution. Malheureusement, cette théorie n'était pas totalement compatible avec le communisme, notamment parce que le hasard n'a pas sa place dans le communisme.
Le hasard, mais donc il aurait sa place, ou il a sa place dans la théorie de l'évolution ?
Ah ben oui, c'est même central. Aujourd'hui, on parle de mutation génétique, mais cette notion n'existait pas à l'époque de Darwin. Alors, Darwin parlait simplement de hasard. Le hasard est tout simplement le moteur de l'évolution.
Vous pouvez peut-être nous donner un exemple.
Un exemple, hein, un classique, si vous voulez. Le coup de la girafe. Comme les girafes mangent les branches sur de grands arbres, elle a intérêt à avoir un long cou. Lorsque les girafons naissent, certaines naissent avec un cou plus long que d'autres. C'est le hasard. Et ceux-ci ont un avantage sur les autres. Ils vont donc vivre et se reproduire plus facilement. Ainsi, ce trait particulier, le long cou, va devenir un élément de sélection naturelle. Et la girafe a aujourd'hui un très long cou.
Et donc, cette explication, qui est aujourd'hui la bonne, finalement, on le sait, elle ne plaisait pas à Lysenko.
Non, car il s'agit d'un déterminisme naturel non contrôlable. Mais les théories de Lamarck lui plaisaient beaucoup plus. C'est parce que maman et papa girafes ont tendu et tiré leur cou pour attraper les branches que les descendants héritent un cou plus long. C'est la théorie de la transmission des caractères acquis. Lysenko va plus loin. Ces caractères s'obtiennent par la coopération entre les individus et la sélection naturelle est une mystification bourgeoise.
Tiens, en parlant de mystification, au moins il parlait d'un sujet qu'il connaissait bien. Et pendant 25 ans, c'est donc cet obscurantiste qui sera à la tête de l'agronomie soviétique.
Bon, de 1940 jusqu'à la mort de Staline en 1953, il sera seul maître à bord, 13 ans, enchaînant les famines et donc des milliers, voire des millions de morts. Dès que Khrushchev arrive au pouvoir, il abandonne le système agronomique de Lysenko. Mais celui-ci reste en poste pour apaiser des esprits.
Bon, est-ce qu'un jour, Lysenko a dû payer pour ses crimes ?
Mais non. En 1965, après l'éviction de Khrushchev, on lui retire son poste à l'Académie des sciences. De toute façon, il a largement atteint l'âge de la retraite. Il meurt paisiblement en 1976 avec toutes ses médailles, dont l'ordre de Lénine, la plus haute distinction de l'ex-URSS.
Cet épisode de Mystifica Science a été réalisé par Yves Roulin. Éditeur numérique, Sébastien Blanc. Attaché de production, Annette Kléber. Mystifica Science est un podcast de la RTS. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Et ne manquez pas notre prochain épisode qui sera mis en ligne lundi prochain.